n'est-ce pas?
Super.
Donc vous pouvez préparer déjà la Genèse, chapitre 7. Il faudrait un grand coup de nettoyage, vous ne trouvez pas? Il faudrait un grand coup de nettoyage, le fameux nettoyage du printemps. L'autre jour, il y a eu quelques gouttes de pluie qui sont tombées, et en même temps, il y avait un vent qui avait amené de la poussière, donc la terre était un peu devenue sèche de nouveau, et cette alternance de quelques gouttes avec la poussière qui s'envolait dans l'air, noircit toutes les fenêtres. Les voitures étaient sales, etc.
Sans doute. Et avec le retour des rayons du soleil, ben, c'est pas beau. On regarde à travers les fenêtres et puis c'est pas net. Hein. Alors on est un peu triste. Alors je vois les femmes là qui sourient en particulier. Hein. Okay. Il faudrait un grand coup de nettoyage pour avoir de nouveau des fenêtres bien nettes. Mais la crasse, elle n'est pas que sur nos maisons. Regardez la courbe du chômage ces dernières années. Il faudrait un grand coup de nettoyage, là aussi, dans les systèmes financiers, n'est-ce pas? Il faudrait arrêter tous ceux qui, corrompus, profitent de ce système et le mettent en place même, et cherchent à asservir d'autres par ces moyens-là. Il faudrait un grand coup de nettoyage, là. Regardez les problèmes de pollution de la planète. Il faudrait un grand coup de nettoyage pour laver la mer, la terre et le ciel de tous les déchets chimiques et plastiques. Tout ce que nous, on a déversé dedans. Il faudrait un grand coup de nettoyage dans ce monde. Pourquoi Dieu ne met-il pas un peu plus d'ordre sur la terre, s'il est si bon et si puissant? C'est sans doute une question que vous avez déjà entendue autour de vous. Peut-être une question qui vous préoccupe ce matin. Pourquoi Dieu ne met-il pas de l'ordre sur cette terre? Est-ce que Dieu ne voit pas les souffrances de ceux qui luttent avec le sida ou le cancer ou la mucoviscidose ou des maladies psychiques? Il faudrait un grand coup de nettoyage pour enlever ces maladies. Dieu ne voit-il pas les larmes sur nos visages à cause de la peine que nous éprouvons dans ce monde? Pourquoi Dieu ne met-il pas un peu d'ordre sur terre s'il est fort? Je crois que notre passage ce matin apporte des réponses à cette question. Dieu a déjà jugé le monde. Dieu a déjà donné un grand coup de nettoyage sur la terre. Et il annonce qu'il le fera encore une fois. Mais Dieu va déployer aussi toute sa puissance et toute sa bonté pour sauver Noé à travers de ce jugement. Et donc, de la même manière, il veut encore sauver aujourd'hui. Et donc, autant que des réponses à vos questions, à nos questions, peut-être ce matin, je prie qu'on soit aussi consolés en attendant de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie et dans ce monde. Comme notre passage est assez long, je vais lire au fur et à mesure et faire quelques commentaires en suivant le fil du texte. Donc, c'est une bonne chose d'avoir la Bible ouverte devant vous. Genèse, au chapitre 7, on va lire à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre 8. Donc, il y a du travail sur pain sur la planche ce matin. Hein. Et vous avez pas, ce matin, le feuillet, parce qu'il y avait plus d'encre dans l'imprimante. Voilà. Donc, je vous lis juste le plan que j'avais prévu, qui n'est pas non plus là. Pourquoi Dieu ne met-il pas un peu d'ordre sur terre? En fait, il l'a fait, et il le fera encore une fois. C'est la première partie. Et je vous annoncerai le plan au fur et à mesure, ce sera plus simple. Pourquoi Dieu ne met-il pas un peu d'ordre sur terre? En fait, il l'a fait, et il le fera encore une fois. Il l'a fait, regardez avec moi, dans Genèse, au chapitre 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé deux par deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Il y a dans ce passage comme un retour en arrière. Vous allez voir ça. Un retour au chaos et au vide qui prévalait en Genèse, chapitre 1, verset 2. Vous avez sans doute connaissance de ce verset. La terre était un chaos et elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, si vous voulez, la troisième personne de la Trinité, est donc présente au moment de la création, en Genèse 1, prête à intervenir, cette troisième personne de la Trinité, en accord avec la parole de Dieu dans le monde. Et on avait vu ça, c'est juste un rappel. Dieu crée par sa parole, il structure des espaces, des habitats, et puis il crée ensuite des habitants pour ces différents espaces. Le sommet de la création, c'est l'être humain, homme et femme, parce qu'ils sont, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc tout ça, c'est Genèse 1. Mais on a vu en Genèse 3, l'homme sortir de cette relation avec Dieu, détourner les regards de Dieu pour vivre une vie centrée sur lui-même, dans une volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et depuis qu'il a fait cela, l'homme ne reflète plus son Créateur. En fait, son cœur, on l'avait vu ça récemment, le cœur humain naturel ne conçoit que des mauvaises pensées. Depuis la chute, il n'est capable que du mal. Et Dieu décide de nettoyer le monde. Il juge le monde, et principalement ses habitants, par un déluge. Et avec ce déluge, c'est comme si Dieu décrée le monde. Comme au temps des cassettes VHS, vous êtes de ma génération un petit peu quand même. Hein. Donc il y avait les VHS, on pouvait les mettre et puis on pouvait faire arrière rapide et on voyait le film qui défilait en vitesse rapide en arrière. Voilà un peu comment Dieu est en train d'agir. Regardez avec moi verset 10. « 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. » L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, et c'est intéressant de noter, de repérer la date que Moïse écrit ici. Il n'est pas en train de nous raconter un mythe, il nous raconte un événement historique qui a eu lieu. Donc, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Ce verset est à comparer avec Genèse 1, 6 à 8. Où on voit Dieu séparer au deuxième jour de la création les eaux d'en haut, la pluie si vous voulez, et les eaux d'en bas, les rivières, les sources du grand abîme. Dieu dit, je cite, « qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. » Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, au moment du déluge, Dieu annule cette distinction. Seuls des ch'timites comme moi peuvent comprendre ça, un petit peu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de passer des semaines entières, des années d'existence, sous la pluie, sans pouvoir distinguer l'horizon entre le ciel gris de pluie et les pavés gris de pluie? La pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, verset 12. Et verset 17, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent, grossissent, et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Donc les plus hautes montagnes sont recouvertes par 15 coudées d'eau, c'est-à-dire environ 7 mètres. 7 mètres au-dessus de l'Himalaya. Dieu recouvre la terre. Et de nouveau, une nouvelle distinction, une bonne distinction de Genèse 1 est maintenant comme annulée, défaite par Dieu. Vous vous rappelez, en Genèse 1, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon, qu'il y ait cette distinction. Et voilà que Dieu, dans sa juste colère, provoqué par la rupture de l'alliance effectuée par Adam et suivie par nous tous. Et Dieu, en accord avec son plan parfait, décide de retirer cette bénédiction. Il retire ses bienfaits. Il abandonne l'homme à lui-même, si vous voulez, dans un sens. Il le livre à ce qu'il a voulu. Et voici que nous lisons le verset 21 d'abord. Pardon. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Mes frères, mes sœurs, on ne peut pas vivre sans les bénédictions de Dieu. Si Dieu se retire, si Dieu ne vient pas soutenir ce monde, notre vie, nous mourrons. Rappelle-toi, même si tu ne crains pas Dieu, tu lui dois la vie. Chaque battement de cœur, un toit sur ta tête, de quoi manger, tout ça, c'est des bénédictions de Dieu. C'est lui qui donne ça. Et nous aussi, nous connaissons Dieu, mais souvenons-nous-en. Et dans Genèse 1, nous avions vu Dieu peupler les espaces qu'il avait créés, mais ici, Dieu dépeuple la terre. Il avait ordonné comme une bénédiction, il y a des bénédictions plus dures et des ordres plus difficiles à obéir. Hein. Il avait ordonné comme une bénédiction aux animaux et aux êtres humains d'être féconds, de se multiplier sur la terre. Cela a été une bonne chose. Dieu les bénit, chapitre 1. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu, en plus de ça, donne toute sa création, il la confie aux soins de l'homme qui doit gérer ça sous l'autorité de Dieu. Mais à cause de la perversion des cœurs, à cause de la violence des hommes, maintenant marqués dans leur être intérieur par le péché, orientés vers une vie qui ne tient pas compte de Dieu. Dieu, au temps de Noé, a jugé le monde et il a fait périr tout ce qui était vivant. À cause du rejet de Dieu, le Créateur, par les hommes qui se croient libres de tout dire et de tout faire sans devoir rendre des comptes, Dieu, au temps de Noé, a jugé le monde. Verset 23, tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'aux animaux. Revenons un peu à notre question du départ. Pourquoi Dieu ne met-il pas un petit peu d'ordre sur cette terre? Que fait-il au ciel? Ne se soucie-t-il pas de nous? S'il est tout puissant, comme on le dit, qu'il règle la question du chômage, qu'il me donne une vie plus facile, qu'il stoppe les conflits dans le monde et dans ma famille et en moi-même. Pourquoi Dieu ne met-il pas un petit peu d'ordre sur terre? Écoutez la réponse de l'apôtre Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, parenthèse, le déluge a eu lieu dans les premiers jours. Mais dans les derniers jours, c'est-à-dire de nos jours à nous, au regard de l'histoire du salut, dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Ne croyons pas que Dieu soit trop faible. Ce serait une fausse piste. Tout, Tout, absolument tout dans la création est au service de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre, sous la terre. S'il a effacé l'ancienne création, rien ne l'empêchera d'effacer celle-ci. Mais, et l'apôtre Pierre continue, mais s'il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas oublier, il parle à nous, d'accord ? Il parle à vous ce matin, l'apôtre Pierre. S'il y a bien une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est en train de patienter. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on serait parfois tentés de douter que Dieu va tenir sa promesse? Mais l'apôtre Pierre, il nous encourage. Non, ne doutez pas. Dieu tient ses promesses, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, envers l'être humain, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, ne croyons pas non plus que Dieu n'est pas bon, qu'il n'est pas un Dieu qui aime. Là aussi, ce serait une fausse piste. Deuxième partie, pourquoi Dieu ne met-il pas un peu d'ordre sur terre? On l'a vu, en fait, il l'a déjà fait et il va le refaire. Et maintenant, pourquoi Dieu ne met-il pas un peu d'ordre sur terre? En fait, il est bien en train de le faire maintenant. Il est en train de faire de l'ordre. Et comment il fait ça? En sauvant des hommes, des femmes, en vue d'un renouvellement de la création. La puissance et la bonté de Dieu sont maintenant à l'œuvre pour sauver un peuple, une famille de gens, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, qui, comme Noé, ont placé leur foi en Jésus-Christ. Dieu est en train de préparer une nouvelle humanité à partir d'un juste. Mais après lui... à partir d'un juste, d'accord ? Et on découvre que dans la suite du récit, Noé n'est que le prototype, d'accord, la maquette si vous voulez, de cet homme juste. Après lui, après Noé, conformément au plan éternel de Dieu, conformément à la promesse de Dieu, Dieu est fidèle, Jésus, le Fils de Dieu, est venu. Il s'est fait homme, lui le juste par excellence. Il n'y en a aucun qui est juste comme Jésus, le juste parfait. C'est par lui que Dieu a choisi de sauver un reste, une nouvelle humanité, avec un cœur purifié, lavé. Le grand nettoyage peut avoir lieu pour nous-mêmes. Un cœur dans lequel le péché ne subsiste plus. Donc toute cette histoire de Noé est une image, une préfiguration, une maquette, un modèle réduit, si vous voulez, de ce que Dieu avait prévu avant même la fondation du monde. Et ce qu'il est en train de faire maintenant en Jésus-Christ. Dieu était en train de juger le monde avec puissance du temps de Noé. Il le fera encore une fois. Mais Dieu était aussi dans l'arche, protégeant et gardant précieusement tous ceux qu'il y avait mis. Regardez avec moi, verset 13. Le plan de Dieu en miniature continue de se dérouler. Le déluge est sur le point de commencer, verset 13, si vous vous rappelez le contexte. Hein. Et ce même jour... entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Et tous les animaux, selon leur espèce, tout le bétail, selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux, selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, c'est-à-dire mâle et femelle. De toute chair ayant souffle de vie, il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Tout cela pour échapper au déluge que Dieu avait annoncé 120 ans plus tôt. Donc ils savent très bien ce qui est sur le point d'arriver, ce n'est pas un hasard qu'ils sont là. Mais Noé, sa femme et ses filles, et les femmes de ses... sa femme, ses fils, et les femmes de ses fils entrent dans l'arche conçue par Dieu pour s'abriter du jugement, pour trouver un refuge au moment où le jugement s'abat sur le monde. Et ça, c'est une grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui a donné les plans à Noé. C'est lui qui a donné cette possibilité à Noé et à sa famille d'être sauvés. Dieu est l'auteur de tout, de A jusqu'à Z. Tout vient de lui. Le jugement, mais aussi le salut. Alors Noé, sa famille, c'est-à-dire 8 personnes en tout, plus des animaux de chaque espèce. Et Noé, Moïse insiste bien, chaque espèce, selon son espèce. Aucune partie de la création n'est donc abandonnée, non représentée, si vous voulez, dans l'arche. Tout le monde est représenté dans l'arche. Et Moïse prend soin de bien nous le préciser. Mâles et femelles. Ils arrivent tous dans l'arche, comme Dieu l'a ordonné à Noé. Et fin du verset 16, qu'est-ce qui se passe? Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Tous ceux qui doivent être dans l'arche sont dans l'arche. Il n'y a pas de différence entre le projet de Dieu et la réalité. Il n'y a pas de différence entre ce qui devait y avoir lieu et ce qui a effectivement lieu. Aucun ne manque à l'appel. Ce n'est pas du ressort de Noé, mais de Dieu. C'est lui qui ferme la porte de l'arche. C'est lui, Dieu, qui établit une séparation donc entre ceux qu'il a choisi de sauver et ceux du dehors. Il est évident que les animaux sont venus comme attirés par Dieu, chacun selon son espèce, un mâle, une femelle, poussés comme portés par Dieu. Ne croyons pas qu'il en soit très différemment de Noé. Noé, sa femme, leurs 3 fils avec leurs épouses respectives sont tous dans l'arche, mais ce n'est pas leur mérite qui les a conduits là, c'est la grâce de Dieu. Ainsi, de tout ce qui a souffle de vie, ce qui devait être dans l'arche, personne ne manque à l'appel. Et il en sera de même au jugement final. Toute personne qui devra être dans la présence de Dieu, réconciliée avec Dieu, sera dans la présence de Dieu, réconciliée avec Dieu. Il n'y aura pas d'écart entre la volonté de Dieu et la réalité. Et Dieu ferme la porte sur ceux qui sont dans l'arche pour les garder et pour les protéger des flots extérieurs, et aussi pour qu'ils restent ensemble, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans les colos, ou peut-être si vous avez grandi un peu à la campagne, d'attraper un papillon, nous on appelait ça les papillons carottes, les papillons orangés là, ou un criquet dans vos mains, et il faut venir tout doucement, et puis vous fermez ça, et puis vous serrez bien les mains pour garder le criquet. Malheureusement pour le criquet, il finit dans un bocal. Ce n'est pas très très marrant pour lui. Ça, c'est encore peut-être la meilleure chose qui peut lui arriver pour quelques heures. Mais Dieu fait beaucoup mieux que ça. Et on va le voir dans un instant. Je voudrais qu'on se rappelle qu'il est inutile de vouloir échapper par soi-même, comme en montant sur la plus haute montagne, en essayant de s'élever par ses propres forces, en suivant son propre chemin. C'est peine perdue. On ne peut pas s'élever soi-même. En fait, la Bible dit « Ceux qui s'élèvent seront abaissés, et ceux qui s'humilient, alors ceux-là seront élevés devant Dieu. » Tout comme l'arche a été portée au-dessus des flots, verset 18, vous vous rappelez, même 7 mètres au-dessus des plus hautes montagnes, quand il n'y avait plus aucun appui sur la terre ferme, Noé et les habitants de l'arche étaient, eux, comme portés par Dieu, lui-même, à l'abri dans son arche, dans son moyen de secours, dans son moyen de salut. Et chapitre 8, verset 1, « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. » Dieu se souvient, ça ne signifie pas qu'il avait oublié. J'oublie souvent, moi, mais Dieu n'est pas comme moi, heureusement. Il suffit juste de relire le récit, et on l'a encore rappelé, Dieu est complètement au contrôle de la situation. Cela depuis... Depuis Genèse 1, en fait, avant la première seconde de la création, Dieu est déjà là. Dieu est déjà là avant la création éternelle. Donc ici, Dieu se souvient signifie, dans le langage biblique, que Dieu va agir en accord avec une promesse. Il se rappelle que j'ai dit ça, maintenant je vais agir. J'ai promis, alors maintenant je vais donner ce que j'ai promis. Il décide d'agir fidèlement, en conformité avec ce qu'il a annoncé. Je crois que ça fait référence à Genèse 3,15, une descendance pour écraser la tête du serpent. Et toujours chapitre 8, verset 1, « Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux elles s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. C'est le mouvement inverse à celui du chapitre 7 qui s'amorce. Si vous regardez les délais, vous verrez bien ça dans la structure du texte. Et on assiste à partir du chapitre 8 à un renouvellement de la création. Comme en Genèse, chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu, le vent qui vient de Dieu, le souffle de Dieu, c'est un même terme en hébreu pour tous ces mots-là, il revient dans la création. Si vous vous rappelez, en Genèse 6, Dieu avait décidé d'enlever son esprit. Maintenant, l'esprit revient. Il apaise les choses. Le jugement est passé. Et verset 4, le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et donc, nouvelle division entre les eaux d'en haut et celles d'en bas. Et de nouveaux distinctions entre la mer et la terre, comme en Genèse 1. Verset 6, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et on voit Noé lâcher d'abord un corbeau, puis une colombe. Et pour gagner juste quelques secondes, verset 10, il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Et comme en Genèse 1, après l'apparition de la terre ferme, Dieu fait pousser les végétaux. Verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Revenons encore à notre question du départ. Pourquoi Dieu ne met-il pas un peu d'ordre dans ce monde? Il faudrait un grand coup de nettoyage. Dieu l'a fait, mais dans sa grâce, il a permis que plusieurs traversent le jugement en étant à l'abri, cachés dans l'arche conçue par Dieu. Dieu a sauvé dans le passé. Il sauve encore aujourd'hui. Et au jour du jugement final, il y a un moyen de passer au travers de ce jugement, à l'abri, caché. Et c'est ma troisième et dernière partie. Voilà comment Dieu veut nous cacher pour nous qui sommes après le déluge. Parce que le vrai projet de Dieu, le projet éternel de Dieu, c'est un peuple vivant, une famille vivante, dans une relation restaurée, dans une création renouvelée. Petit écho à Genèse 2. Vous remarquez ? L'aboutissement de l'action de Dieu, c'est la vie. Verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Verset 18, « Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. » Et Dieu bénit, de nouveau, Dieu bénit et ordonne la multiplication. Donc, après le retour au chaos et au vide qu'on avait vu dans chapitre 7, maintenant Dieu restructure à nouveau le monde et il le repeuple, si vous voulez. Il donne la vie en abondance. Dieu repeuple la terre. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes. Donc, il sacrifie des animaux purs sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Mais notez bien, il y a une petite condition ici, verset 22, « Tant que la terre subsistera. » Ce n'est pas que Dieu ne va plus jamais juger le monde, mais il ne va plus juger avec un déluge, tant que la terre subsistera. Il y aura une régularité dans le monde, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Noé se retrouve donc à la sortie de l'arche dans un lieu parfait. Pour l'instant, mettons un petit point d'interrogation ici. Un lieu renouvelé en tout cas. Et Dieu fait des sacrifices. Un lieu, il est possible de rencontrer Dieu à nouveau après les heures sombres de Genèse 6. Il semble que la relation soit restaurée avec Dieu, la communion à nouveau possible. Regardez le verset 21. Le Seigneur sentit une odeur agréable. Il est apaisé aussi, il est rendu propice, à nouveau favorable à l'être humain par ses sacrifices. Noé serait-il un nouvel Adam parfait? Là aussi, mettons un petit point d'interrogation pour le moment. Je voudrais terminer. Pardon si j'ai de nouveau été long, mais pourquoi Dieu ne met-il pas un peu d'ordre dans ce monde? Pourquoi Dieu ne met-il pas un peu d'ordre dans ce monde? En fait, il l'a déjà fait au temps de Noé. Il le fera encore une fois à l'avenir, comme on l'a lu tout à l'heure. La grande question maintenant, c'est la suivante. Ce jour-là, au jour dernier, lorsque nous serons face à face avec Dieu, notre Créateur, sur quoi est-ce que nous comptons pour échapper au jugement de Dieu? Et il n'y a qu'une seule réponse à cette question qui vaille la peine de creuser. Il faut que tu sois, il faut que je sois, il faut que nous soyons cachés à l'abri du jugement, parce que personne ne va tenir devant ce jugement. Et après le prototype, voici comment toi et moi et nous, nous pouvons trouver un abri sûr et solide pour traverser le jugement à venir sans mourir. Et je voudrais lire dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. Lui juste, le juste, l'homme juste, lui juste pour qui? Pour des injustes, pour nous, pour moi. Pourquoi il a fait ça? Afin de nous amener à Dieu, comme l'arche en train de flotter au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Et aboutir dans une création renouvelée. Afin de nous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison. Ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait les 120 ans, au jour où Noé bâtissait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau. Et l'apôtre Pierre nous explique, c'était une figure du baptême, verset 21, qui vous sauve à présent. Baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, ce n'est pas un lavage extérieur qui est nécessaire. C'est un lavage intérieur, un lavage du cœur, un lavage de l'âme, un lavage de notre être profond intérieur. Donc le baptême n'ôte pas, qui n'est pas le fait d'ôter la saleté de la chair, c'est pas juste un bain, d'accord? Mais c'est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu et à qui ange, autorité et puissance ont été soumis. Et de manière un peu complémentaire, je voudrais lire aussi Colossiens chapitre 2. Versets 12 à 14. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 14. Pour comprendre que ce n'est pas le baptême, le rite en lui-même qui nous sauve. Il faut comprendre que ce n'est juste qu'une illustration aussi, un prototype, une maquette de ce que Dieu fait spirituellement parlant pour nous. Quand nous rentrons dans l'eau, si c'est votre cas, que vous avez été baptisé par immersion normalement, selon les critères bibliques. Et donc c'est comme si vous vous identifiez à la mort de Christ. Et puis, en ressortant de l'eau, vous ressortez comme vivant avec Christ, de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que Colossiens nous explique, chapitre 2, verset 12. « Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, moi et vous, qui étions morts à cause de nos fautes, et parce que nous étions des incirconcis, des païens, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé, il a pris le papier, annulé toutes nos fautes. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard de ses commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant à la croix. Et un peu plus loin, Colossiens chapitre 3. Car vous êtes morts, d'accord, si vous êtes unis avec Jésus-Christ et que vous avez même manifesté cela dans le baptême, alors vous êtes morts avec Christ et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quel passage incroyable. Étant unis avec Jésus-Christ, alors nous sommes cachés en Jésus-Christ. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire, la gloire d'une la nouvelle création, d'une relation restaurée dans la présence même de Dieu. Pourquoi Dieu ne met pas de l'ordre dans ce monde? Dieu l'a fait. Il va le faire encore. La grande question, c'est sur quoi est-ce que tu comptes, toi, pour être caché comme Noé l'était dans l'arche et traverser ce jugement-là à venir et sortir en vie, sortir vivant dans la nouvelle création de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, connaître Jésus-Christ, s'unir à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et si vous avez des questions sur ça, parlez-en, lisez la Bible, venez voir un chrétien mûr pour creuser ça.